Éternel notre Dieu, ce matin, ce n'est pas un peuple ou une partie de ce peuple, de ton peuple qui se réunit conscient de sa force, fier de sa puissance, de son intelligence, qui se réunit, mais c'est un peuple, Seigneur, qui regarde à toi, conscient de ses limites, conscient de son péché, reconnaissant pour l'œuvre de salut que tu lui as accordée. Car aucun d'entre nous, Éternel, réuni ici ce matin, est appartenant, ne méritait de venir dans ta présence. Aucun d'entre nous, Éternel, Seigneur, ne pouvait se tenir devant toi. Nous étions tous perdus, rebelles, marchant dans notre péché, mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Et ce matin, comme tous les dimanches matins, nous voulons nous en souvenir. Tu as jeté un regard bienveillant sur nous, en vertu de l'œuvre de ton Fils, d'un choix établi, Seigneur, dans l'éternité, pour lequel nous ne pouvions rien, Seigneur. Nous n'existions même pas que déjà, Seigneur, tu nous connaissais, et tu avais décidé que tu nous sauverais. Alors, Éternel, ce matin, nous venons devant toi en désirant rejeter toute forme d'orgueil, toute forme de vanité, Seigneur, de suffisance, et nous approcher de toi, Seigneur, à genoux, en tout cas dans nos cœurs, désirant entendre ta parole, Seigneur, recevoir de toi ton saint conseil, désirant aussi, Éternel, dans les limites qui sont les nôtres, mais de tout notre cœur, te rendre, Seigneur, la gloire qui t'est due par nos chants, par nos prières, par une écoute attentive de ta parole et par une mise en pratique. Déjà aujourd'hui, Seigneur, si nous regardons la semaine passée comme nous le faisons souvent, chaque jour nous regardons ces journées que tu nous as données et au début de chaque semaine ou à la fin de chaque semaine, nous avons cette opportunité de regarder en arrière et de constater combien, Éternel, combien Seigneur, nous avons manqué, combien nous t'avons offensé, mais nous nous souvenons aussi à chaque fois qu'en vertu de l'œuvre de salut de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur à la croix, si nous nous présentons devant toi, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ô Dieu, notre Dieu, qui est Père bienveillant, c'est en toi qu'est notre espérance. C'est de toi que vient le secours. Ô béni sois-tu pour ta grande fidélité. Bénis ces instants, nous t'en supplions. Seigneur, tu vois qu'il peut y avoir parfois des résistances, pour diverses raisons dans nos cœurs, comme des forteresses qui s'élèvent, Seigneur, contre la connaissance de ta personne éternelle, contre une consécration réelle et profonde, Seigneur, à toi, notre Dieu. Eh bien, nous te prions et te supplions ce matin que, Seigneur, tu puisses, par ta parole, sous l'action de ton esprit, vraiment briser ces résistances. Seigneur, brise toute forme d'orgueil. Seigneur, brise toute vanité, toute suffisance. Accorde-nous, ô Dieu, de marcher humblement devant ta face. Nous venons devant toi ce matin, te bénissant pour cette sainte convocation et te demandant, Père, la grâce de ton secours pour ces moments, pour toute cette journée qui doit être consacrée. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de lire maintenant le texte de la prédication de tout à l'heure. Nous allons lire le chapitre 5 du livre d'Esther. Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine, Esther, debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête ?» Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. Esther lui répondit, « S'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit, « Pressez Aman de donner suite à l'invitation d'Esther. » Le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête ? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther répondit, « Ma demande, ma requête. Si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je répondrai explicitement au roi. » Aman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, il vit Mardoché à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur au sujet de Mardoché, mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zérek. Aman leur fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant en dignité au-dessus des princes et des serviteurs royaux. « Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je pourrai voir ce juif Mardoché en place à la conciergerie royale. » Sa femme Zérek et tous ses intimes lui dirent, « Qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées, et demain matin tu diras au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. » La chose plut à Aman, il dressa la potence. Voici donc le texte de la prédication qui va suivre, que le Seigneur bénisse sa parole, et non seulement celle qui sera prêchée ici, mais aussi la parole qui sera enseignée aux enfants. La fois passée, nous avons parlé, selon le chapitre 4, de Mardoché et d'Esther. Et à propos de Mardoché, nous avions vu qu'il était un homme qui aimait son peuple, un homme qui souffrait pour son peuple. Et nous avions aussi souligné que c'était un homme doué de discernement et fermement résolu à agir fidèlement là où Dieu l'avait placé et appelé pour le salut de son peuple. Mais nous avions aussi évoqué ses limites et montré par là que malgré toute la bonne volonté qui était la sienne et malgré tout son engagement, il était arrivé à un moment pour lui où il ne pouvait plus rien faire pour son peuple. Quelqu'un devait dès lors prendre le relais. Un peu comme Moïse, rappelez-vous, qui dut s'arrêter aux portes de Canaan, car sa mission était terminée à ce moment-là. Et c'était Josué, un homme de guerre, qui devait prendre la suite pour envahir Canaan. Et ce fut donc, selon le plan providentiel de Dieu, le moment pour Esther de rentrer en lice. Alors c'est vrai, nous l'avions vu, qu'elle était craintive au départ, et ignorante de ce qui se passait, peut-être assoupie d'un point de vue spirituel. Mais poussée par son cousin, elle fit ensuite preuve de courage, de détermination et d'une grande piété. Et nous avions donc souligné, à la fin de cette prédication, comment Dieu, dans sa providence, dans sa souveraineté et avec beaucoup de sagesse, avait su tirer parti tant de cet homme que de cette femme. Il les avait utilisés de façon complémentaire afin d'accomplir ses desseins de salut. Car aucun d'eux, ni Mardoché, ni Esther seule, ne pouvait sauver les Juifs de l'Empire. Dieu seul en était capable, Dieu seul le pouvait. Comment ? Eh bien, en utilisant son serviteur et sa servante, selon son bon plaisir. Et ce matin, nous allons, dans ce chapitre 5 que nous venons de lire, continuer dans ce livre d'Esther et parler de la puissance de la prière. Car les événements qui nous sont rapportés suivent, ou je dirais même ne font pas que suivre, se déroule pendant que les Juifs de l'Empire prient pour le salut, pour leur salut, et prient pour que la reine Esther trouve grâce devant le roi Xerxès, devant le roi Assuérus. Le titre de la prédication est celui-ci, « La puissance de la prière ». Et il y aura deux points. Tout d'abord, l'accueil bienveillant du roi, et ensuite, l'efficacité de la prière. Et tout d'abord, donc, l'accueil bienveillant du roi. Et ce seront les 5 premiers versets. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de considérer les lieux, ou le lieu, et les circonstances de cette rencontre entre Esther et le roi. Tout d'abord le lieu. Alors les historiens disent qu'il y avait deux salles dans l'appartement du roi. L'une que l'on nommait la cour extérieure, dont il est question, ou salle extérieure, ou cour intérieure, pardon, et qui servait en quelque sorte d'antichambre à la deuxième pièce, à la deuxième salle, qui était la chambre intérieure du roi. Et les grands de Perse, lorsqu'ils désiraient se présenter devant le roi, devaient se tenir dans la cour intérieure et attendre que le roi veuille bien les appeler quand il avait besoin d'eux ou lorsqu'il désirait leur service. Et c'est alors, seulement, qu'ils pouvaient pénétrer dans la chambre intérieure du roi. Quant à cette pièce, eh bien, on sait ceci, c'est qu'elle était revêtue d'or. Et lorsque quelqu'un pénétrait dans cette pièce, sur invitation royale uniquement, eh bien, il découvrait en face de lui, de l'autre côté de la salle, une sorte d'alcôve richement décorée. Et c'était le lieu où se trouvait le trône sur lequel était assis le roi lorsqu'il tenait audience avec les grands du royaume. Mais, je le répète, personne ne pouvait venir et se tenir dans sa présence sans y avoir été expressément invité par lui. Et toute personne qui se serait risquée à pénétrer même déjà dans la cour intérieure, avant d'arriver dans la salle du roi, dans la chambre du roi, eh bien, toute personne qui aurait tenté cela n'aurait pas survécu longtemps, car il y avait de chaque côté du roi des gardes avec des haches qui a été chargés de décapiter tous ceux qui essayaient de pénétrer sans invitation. Alors la reine Esther, après ce temps de prière, le troisième jour, lorsqu'elle se présente devant le roi, alors même qu'elle n'y est pas invitée, elle n'a pas été invitée dans sa présence depuis un mois, se tient, bien entendu, comme tous les princes de l'Empire, dans la cour intérieure. Jusqu'au moment où Assuérus l'aperçoit et, contre toute attente, la fait venir à lui. Et c'est avec beaucoup de sagesse, il faut le souligner, que nous découvrons dans le premier verset qu'Esther s'est préparée pour cette rencontre. Elle n'est pas venue devant le roi habillée n'importe comment. Elle n'est pas venue en mettant des habits saillants pour essayer de séduire le roi parce qu'elle était très belle. Elle est venue en lui rappelant son statut royal, en se revêtant des attributs royaux qu'Assuérus lui-même lui avait conférés lorsqu'il avait prise pour reine. Et le texte hébreu nous dit littéralement qu'elle revêtit sa royauté. Que voulait faire Esther ? Bien, elle voulait lui rappeler qu'elle ne se présentait pas devant lui comme une simple citoyenne de l'Empire perse, mais qu'elle avait un statut à part, qui faisait d'elle sa reine, et que c'était en tant que telle qu'elle se présentait devant lui. Et c'est ainsi que lorsque le roi voit la reine Esther, donc dans cette cour intérieure, et toute sa splendeur royale, que fait-il ? Eh bien, il abaisse son sceptre vers elle, sceptre qu'elle va toucher. Et en faisant ainsi, le roi donne un signe royal de pardon. Le roi annule d'un coup la sentence de mort qu'il aurait dû prononcer à son égard, parce qu'elle s'exposait à cela en pénétrant sans autorisation devant le roi. Et non seulement il fait grâce à la reine, mais en plus, comme le texte nous le montre, il l'accueille avec une grande bienveillance, avec une grande générosité. Il lui promet même jusqu'à la moitié du royaume. Mais Esther, avec beaucoup de sagesse, sachant qu'elle a déjà bravé beaucoup d'interdits, eh bien se plaît non pas à plaider d'ores et déjà pour son peuple, mais à inviter le roi. Mais remarquez-le, elle invite le roi en restant soumise à sa décision, en lui disant « s'il plaît au roi ». Alors, chers frères et sœurs, ce que nous découvrons très certainement dans ce début du chapitre 5, eh bien c'est une première réponse aux nombreuses prières d'Esther et des Juifs de l'Empire. Et ce que je vous propose, c'est que nous en disions quelques mots, mais que nous en disions quelques mots tout à l'heure, dans le deuxième point, qui traitera de l'efficacité de la prière. Avant cela, il me semble que nous pouvons aussi considérer ces premiers versets sous un autre angle. Et je ne vous cache pas que pendant toute la semaine, je me suis posé bien des questions, est-ce qu'il fallait le souligner ou pas, et j'en suis arrivé à la question que oui. Et il m'apparaît que cette rencontre entre la reine et le roi et cet accueil si bienveillant de sa part sont une parfaite illustration, je dis bien illustration, de la nature même de la relation qui existe entre le chrétien et son Dieu. Et de comment l'enfant de Dieu peut venir avec confiance dans la présence de son Sauveur pour lui demander grâce. Alors c'est vrai, que je vous ai dit il y a quelques semaines quand nous avons commencé ce livre d'Esther, que je ne crois pas que nous puissions faire d'Assuérus et d'Esther un type de Dieu et un type de l'Église. Et je continue en l'affirmant. Si nous prenons ne serait-ce qu'Assuérus, nous voyons dans son instabilité, dans son inconstance, eh bien, beaucoup trop d'éléments négatifs pour nous faire dire qu'il est un type de Dieu. Mais dans cette portion de texte, qui nous révèle la nature des rapports officiels entre le roi et la reine, eh bien, ces rapports me semblent illustrer, je le répète, eh bien, les rapports qui existent entre Dieu et son enfant. Et cette possibilité pour ce dernier d'être reçu dans la présence divine pour épancher son cœur. Alors je vous propose qu'on reprenne très rapidement eh bien, les différentes étapes de cette rencontre et que nous les transposions comme illustration de notre situation devant Dieu. La première des choses dont nous devons nous rappeler, c'est que de la même façon que personne ne pouvait se présenter, ne serait-ce que dans la cour intérieure du palais, près de la chambre du roi, eh bien de la même façon personne ne peut se présenter dans la présence de Dieu. Aucun homme. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que, comme le dit Habacuc à propos de Dieu, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et il ne peut pas regarder l'iniquité. Ainsi donc, l'homme étant pécheur ne peut s'approcher de Dieu. Et la seconde raison, qui fait logiquement suite à la première, c'est que l'Éternel, selon l'Épître aux Hébreux, est comme un feu dévorant. Ce qui signifie que, à l'égard du pécheur, eh bien, il ne peut que détruire le pécheur à cause de sa nature pécheresse. Et la question alors que tout homme peut se poser, dès lors, selon un verset de l'Ancien Testament, est la suivante. Mais qui peut subsister en présence de l'Éternel, en présence de ce Dieu saint? Et la réponse est toujours la même. Aucun homme ne peut subsister dans la présence de Dieu à cause de son péché. Aucun. Pourtant, et comme Esther vis-à-vis d'Assuérus, certains hommes et femmes peuvent aujourd'hui se présenter librement, sans crainte, spirituellement et réellement dans la sainte présence de Dieu. Car comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ils ont une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons en tant que chrétiens une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Pourquoi ? Eh bien car de la même façon qu'Esther se revêtit des insignes de la royauté que le roi lui avait donné pour venir dans sa présence, eh bien de la même façon, les enfants de Dieu, les chrétiens, ne se présentent pas devant Dieu en vertu de leur mérite, parce qu'ils n'en ont aucun, mais ils se présentent devant Dieu en vertu des mérites de Christ. En vertu de sa parfaite justice que Dieu a imputée sur leur compte au moment de leur conversion. Ils sont revêtus de cette justice comme d'un manteau, un peu comme Esther qui se revêtit de sa royauté. Et dès lors, et tout comme Assuérus accueillit Esther avec bienveillance, abaissant son sceptre, image de sa grâce, eh bien Dieu accueille ses enfants dans sa présence, avec joie, avec amour, en vertu de l'œuvre de grâce accomplie par son Fils à la croix. Ce n'est plus à un juge auquel ils ont affaire, un juge qui pourrait les condamner à mort à cause de leur péché, mais à un Père bienveillant, qui leur est propice, qui leur a fait grâce, qui les accueille et qui veut répondre à leurs prières. Qui veut répondre à leurs prières? Car de la même façon qu'Assuérus a promis à Esther d'écouter sa requête et d'y répondre avec générosité, eh bien Dieu promet dans sa parole à ses enfants qu'ils ont auprès de lui cette assurance que s'ils demandent quelque chose selon sa volonté, il les écoute. Et s'ils savent qu'il les écoute, quoi que ce soit qu'ils lui demandent, nous dit Jacques, ils savent qu'ils possèdent la chose qu'ils lui ont demandée. Ainsi donc, chers frères et sœurs, sur la base, je le répète, de cette illustration, nous pouvons utiliser pour nous rappeler cette relation que nous avons avec notre Dieu, ce libre accès au sanctuaire. Eh bien, j'aimerais vous exhorter, si vous êtes enfant de Dieu ce matin, à faire preuve de cette même hardiesse dont fit preuve Esther lorsqu'elle s'approcha du roi pour appeler à sa grâce. Sachez que vous pouvez sans crainte venir par la prière devant son trône, pour lui faire connaître tous vos besoins. Vous le pouvez, pourquoi? Non pas parce que vous vous présentez devant lui en vertu de vos mérites, mais parce que vous vous présentez devant lui au nom du Seigneur Jésus-Christ qui vous a ouvert ce libre accès. Ce n'est qu'en vertu de l'œuvre de notre Sauveur que le Père nous accueille et abaisse en quelque sorte son sceptre de grâce à notre égard, voyant en nous ses enfants d'adoption. Si vous êtes son enfant, Dieu est prêt à écouter vos requêtes et à les recevoir avec une bienveillance. Alors que votre attitude, que notre attitude à tous, soit une attitude de hardiesse, de confiance dans la prière, mais qu'elle soit aussi une attitude de soumission. Parce que de la même façon que la reine proposa au roi de se rendre à son invitation en disant « S'il plaît au roi, eh bien il convient que dans nos prières, nous restions entièrement dépendants de la volonté divine, dans tout ce que nous lui demandons. » Et dans ce sens, lorsque nous nous approchons de Dieu, personnellement ou en Église, par la prière, eh bien apprenons tout simplement à demander à Dieu qu'il nous inspire, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Que Dieu nous aide donc, chers frères et sœurs, comme il nous y invite, de nous astreindre avec une entière persévérance à la prière. À nous présenter devant Dieu, non pas en notre nom, mais au nom de notre Sauveur. À le supplier de nous inspirer nos prières afin que nous lui demandions ce qui est selon son cœur. Apprenons à prier. Prenons du temps dans la prière en nous souvenant que Dieu est notre Père. Qu'il a une oreille attentive à l'égard de ses enfants. Voilà donc pour ce premier point, l'accueil bienveillant du roi. Le deuxième, l'efficacité de la prière. Ce qui ressort particulièrement donc dans ce chapitre 5, vous l'avez compris, c'est aussi, c'est surtout les réponses providentielles du Seigneur aux 3 jours de prière de la reine Esther et du peuple juif de l'Empire. Et il me semble que lorsque nous regardons ce texte, eh bien nous pouvons voir des réponses dans 3 domaines particuliers. Dieu répond tout d'abord aux prières de son peuple en ce qu'il incline le cœur du roi pour la reine. Dieu répond ensuite en donnant de la sagesse à Esther lors du festin. Et Dieu répond enfin en permettant qu'Aman s'enfonce encore plus dans son orgueil à l'issue de la première invitation. Regardons ces 3 domaines dans lesquels Dieu intervient. Tout d'abord, Dieu incline le cœur du roi. Alors, comme vous l'avez bien compris, lors du premier point, la partie n'est pas gagnée lorsqu'Esther se présente devant le roi. En effet, si l'on regarde les 4 premiers chapitres, eh bien on voit que tous les événements précédents concernant les personnes qui ont enfreint la loi, que ce soit Vasti ou que ce soit Mardoché, eh bien tous ces événements suggèrent par avance à Esther que son infraction ne sera pas tolérée par le roi et qu'elle risque donc sa vie. Et elle le dit d'ailleurs très clairement à Mardoché dans le chapitre 4. Elle dit entre autres à la fin du chapitre, « Dans ces conditions, eh bien j'irai chez le roi, malgré la loi. Et si c'est pour ma perte, je périrai. » Mais entre cette déclaration et son arrivée au palais, il y a 3 jours de prière. 3 jours de jeûne et de prière se sont déroulés. Et quelle surprise pour cette femme, mais aussi quel encouragement que la réaction du roi, qui l'accueille avec tant de bienveillance alors qu'elle aurait pu être tuée sur le champ par ces hommes qui veillaient sur le roi. Toutes les prières qui sont montées à Dieu ont été exaucées, au-delà même peut-être de ce qu'elle avait demandé ou pensé. Et nous devons voir dans cette réponse, chers frères et sœurs, une œuvre providentielle de plus de la part du Seigneur dans cette histoire d'Esther. Qui souligne vraiment la providence de Dieu. Il s'est plu à répondre aux supplications de son peuple et de sa reine. Et en lisant cela, ne devons-nous pas reconnaître que bien souvent nos craintes, que bien souvent nos appréhensions n'avaient aucun lieu d'être. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà répondu à nos prières. Parce que Dieu nous avait déjà précédés. Et dans ce sens, nous devrions lire la première partie de ce chapitre 5 à la lumière du principe qui est énoncé en Proverbe 21, verset 1. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Ainsi, ce Ce n'est pas pour rien, chers amis, que Paul nous invite à ne nous inquiéter de rien lorsqu'il nous exhorte à la prière. Cela signifie que nous devons réellement, réellement déposer nos fardeaux sur lui et puis lui faire confiance et nous attendre à son secours. Mais c'est difficile. C'est facile à dire. C'est facile à dire quand tout va bien. C'est facile à dire derrière un pupitre. Mais c'est parfois si difficile de laisser les fardeaux au Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, c'est que la plupart du temps, nous imaginons ce qui va arriver avant que cela ne se soit produit. Et si vous avez une imagination fertile, c'est encore plus difficile que les autres. Si vous avez en plus un caractère plutôt angoissé, ça devient quasiment insurmontable. L'imagination. Qui plus est, nous avons en plus souvent une conception faussée de Dieu. Nous lui prêtons nos limites, nous lui prêtons notre impuissance. Mais comment va-t-il pouvoir faire ? Et cela provient la plupart du temps d'un manque d'intimité avec Dieu. Je dis bien d'un manque d'intimité avec Dieu. Et voilà la source de nos inquiétudes et de nos doutes. Notre imagination, mais surtout ce manque d'intimité. Ainsi, lorsque nous prions, croyons que Dieu va intervenir selon sa volonté et pour notre bien. Et ensuite, apprenons à lui laisser les choses sans tourner des regards inquiets à droite et à gauche. Laissez. Laissez. Disons encore ceci concernant cette intervention du Seigneur qui inclina de façon si miraculeuse le cœur du roi. C'est qu'Esther ne se limite pas seulement à la prière. En effet, à la prière, Esther ajoute l'action. Et à peine la troisième journée de prière a-t-elle commencé qu'elle se présente devant le roi, car c'est ce qui se passe. Ce n'est pas la quatrième journée, c'est lors de la troisième journée qu'elle se présente devant le roi. Et elle imite en cela Néhémie, qui, je vous le rappelle, prie ainsi. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Et Néhémie a prié pour Jérusalem. Néhémie a prié pour le peuple de Jérusalem. Et ensuite, que fait-il ? Il se présente devant le roi. Il ne peut pas faire autrement, il est son échanson. Mais le roi distingue, chez cet homme qu'il connaît bien, un trouble. Et il lui demande pourquoi il a si mauvaise figure. Et avec beaucoup de courage, en priant intérieurement, eh bien Néhémie répond au roi. Et il répond quelque chose qui aurait pu déplaire au roi. Mais le roi reçoit ce que Néhémie lui dit avec beaucoup de bienveillance. Alors voilà un secret, chers frères et sœurs. Prier, oui, et agir. Il y a des caractères qui seraient plus portés à la prière. Et il y en a d'autres qui seraient plutôt portés à l'action. Et Dieu nous demande les deux, un équilibre. Voulons-nous voir des âmes venir à Dieu ? Certainement. Je crois pouvoir dire que beaucoup d'entre nous, si ce n'est la grande majorité, aimeraient voir des âmes venir à Dieu. Alors prions, mais prions beaucoup et agissons. Est-ce que nous voulons voir notre Église se sanctifier ? Alors prions et obéissons, personnellement et en Église. Est-ce que nous avons des soucis professionnels ou familiaux ? Certainement. Peut-être de santé ? Prions. Attendons-nous à Dieu. Faisons le nécessaire. Aussi. Et souvenons-nous dans ces moments-là que le Seigneur, dans l'histoire, a incliné le cœur des plus grands rois. Et l'Écriture nous parle des empereurs Nebuchadnezzar, Cyrus, Artaxerxès et ici Xerxès, les plus grands rois de l'époque. Tous eurent leur cœur incliné par Dieu. Je crois que notre problème, en Suisse, et plus généralement en Occident, et peut-être plus spécifiquement dans nos églises, c'est de beaucoup agir. Peut-être que ça va faire sourire certains, si tant est que nous agissions beaucoup. Mais surtout de trop peu prier. Et je crois que c'est une des raisons du peu de fruits spirituels que nous récoltons, personnellement et en Église. Je me souviens d'avoir passé des pastorales entières où l'on discutait, on élaborait des plans, on avait des beaux tableaux, Velleda, vous savez, puis on effaçait, puis on mettait des schémas. Où on a étudié des bouquins entiers sur la croissance de l'Église. Et jamais de moment de prière. Jamais. Si, un petit moment de prière, parce que quand même on est entre pasteurs, donc ça serait quand même bien compris. Au début, puis quand même une petite prière à la fin. Et puis souvent, les beaux plans que nous avions faits, restaient dans un coin et on recommençait la fois d'après. Et il n'y avait pas plus de prière. Dieu répond ensuite en donnant de la sagesse à Esther. Lorsque le roi demande à Esther, du haut de son trône, quelle est sa requête, celle-ci s'empresse de lui répondre en l'invitant lui et Amant pour un dîner qu'elle a préparé pour lui, le roi, dans ses appartements. Alors, je ne vous cache pas que c'est difficile, quand on est confronté à ce texte, de comprendre le pourquoi de cette réponse, qui semble s'apparenter plus à une tactique de la part d'Esther pour esquiver la question, ou plutôt la réponse, qu'à un engagement courageux. Eh bien, si nous pensons cela, détrompons-nous et rappelons-nous une chose, c'est que cette femme a cherché auprès de Dieu pendant plusieurs jours le moment favorable pour faire sa demande, et elle agit en conséquence. En demandant tout simplement au roi de venir le lendemain et en reportant ce qu'elle va demander au roi. Et dans ce sens, vous n'êtes certainement pas sans savoir que lorsqu'on s'applique à faire la volonté de Dieu en comptant sur lui, il y a des moments qui sont difficiles à expliquer, qui sont difficiles à définir, où l'on sait, où l'on sent qu'il faut attendre. Pas maintenant. Que ce n'est pas encore le moment d'agir, qu'il faut différer une décision, mais qui va venir de toute façon, qui est incontournable. Mais ce n'est pas l'instant. C'est un petit peu, pour reprendre cet exemple, et j'ai pensé à Gay à ce moment-là, un peu comme les lanceurs de Cap Canaveral, les ingénieurs qui sont pas très loin de chez elles. La fusée est prête à partir, la fusée Saturne V à l'époque, les moteurs sont chauds, mais ils attendent la bonne fenêtre de tir pour que le lancement réussisse à 100%. C'est un peu comme cela. Alors apprenons, dans ce sens, à savoir attendre parfois en silence le secours de Dieu, à savoir attendre le moment, peut-être le moment pour parler. Lorsque l'heure du dîner arrive, le roi réitère sa volonté d'accorder à Esther presque tout ce qu'elle veut, au verset 6. Mais pour toute réponse, eh bien, la reine, une fois de plus, promet de lui dire l'objet de sa requête, mais si lui et Amant accepte de revenir à un autre dîner le jour suivant. Alors là, on se dit décidément, maintenant c'est absolument sûr. Elle est en train de reporter, elle a peur de lui dire, de lui demander, de lui faire part de sa requête. Mais une fois encore, je crois qu'il y a un souci d'agir au bon moment de la part d'Esther. Et disons encore ceci, c'est que par ce report, une fois de plus, elle laisse pressentir au roi le caractère exceptionnel de sa requête. Et qui plus est, par sa grande générosité et les honneurs dont elle entoure le roi, elle rend celui-ci redevable à son égard. Et très certainement qu'Assuérus est plus sensible à une femme bienveillante à son égard qu'à une femme rebelle comme le fut Vasti. Et ça, Esther l'a très bien compris. Enfin, disons que par ces deux invitations successives, non seulement au roi, mais aussi à son premier ministre, Amant, eh bien, elle entretient chez ce dernier un faux sentiment de sécurité. Et elle écarte ainsi les soupçons éventuels que quelque chose est en train de se tramer contre lui. Parce que Amant n'était pas bête, et avait très certainement ses antennes à droite et à gauche. Mais par-dessus tout, ce que nous ne devons pas oublier, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Parce qu'en filigrane de ce début encourageant, il y a les prières et il y a le jeûne invisible de ces centaines de milliers de juifs de l'Empire qui prient. Ainsi, ce qui arrive pour le bien du peuple de Dieu tient autant de l'activité d'Esther que des prières de ce peuple, prières discrètes dans les maisons, prières de Mardoché. Et de la même façon, chers amis, de la même façon, sachons que nos prières peuvent renouveler le courage, peuvent renouveler la force des serviteurs de Dieu dans certaines situations, peuvent renouveler les missionnaires sur terre missionnaire, peuvent permettre qu'il y ait des fruits portés à la gloire de Dieu. Sachons que nos prières discrètes mais régulières, eh bien, peuvent porter du fruit pour la sanctification et la croissance de l'Église, de notre Église, pour un retour de nos nations à l'Évangile. Et certainement que l'importance crucial de la prière et le combat spirituel qui y est attaché est la raison pour laquelle il y a si peu d'enthousiasme pour les temps de prière. Certainement que le combat attaché à la prière conduit à cette si grande apathie dans le monde chrétien à ce propos. Nous avons tellement d'autres choses à faire lorsqu'il faut prier. Nous avons à ce moment-là de si grandes fatigues qui s'abattent sur nous, mais qui disparaissent tellement vite lorsque nous n'avons pas pris la voiture pour aller à la réunion de prière. Et tout d'un coup, on se sent revivifié. C'est comme si on revivait. Est-ce que je vous étonnerais si je vous dis que certains pasteurs n'ont jamais prié ensemble dans leur pastorale ? Ils sont réunis et ils n'ont jamais prié ensemble. Est-ce que je vous étonnerais si je vous dis que certains sont même intimidés d'ouvrir la bouche, berger du Seigneur, devant les autres bergers ? Est-ce que je vous étonnerais si je vous dis qu'ils ne savent même parfois pas quoi demander à Dieu ? Et c'est la vérité, les amis. Et que lorsqu'ils balbutient quelques mots, eh bien c'est déjà une victoire. Est-ce que je vous étonnerais de vous dire que dans ces cas-là, alors même qu'ils s'engagent avec vigueur pour leur Église et qu'ils pleurent pour elle, ces Églises ne font que mourir inexorablement. Alors est-ce que c'est notre objectif pour notre Église? Si ce n'est pas notre objectif, alors prions. Comme ce peuple d'Israël qui était certain de mourir quelque temps plus tard. La destruction de ce peuple était arrêtée. Alors prions comme ce peuple. Dieu finalement répond en confirmant l'orgueil d'Aman. Aman sortit ce jour-là le cœur plein de joie et d'euphorie, est-il écrit au verset 9. Et il convient de souligner dans ce verset l'expression « ce jour-là ». Pourquoi ? Parce que nous savons que ce sera son dernier jour de joie et de bonheur. Et de savoir qu'il allait être le seul convive avec le roi au prestigieux banquet de la reine le remplissait d'une joie indicible. Et son bonheur ne fit que s'accroître lorsqu'il apprit qu'il avait été invité pour la seconde fois le jour suivant, avec en plus la perspective d'entendre, enfin, en primeur, la requête spéciale de la reine au roi. Nous découvrons que la stratégie d'Esther a fonctionné. Elle a réussi à endormir Aman dans un sentiment de fausse sécurité, ou plutôt, c'est le Seigneur qui a réussi au travers de cette stratégie de la reine. Et c'est très certainement le Seigneur aussi qui agit providentiellement chez cet homme et rend la folie de son orgueil de plus en plus évident pour sa pure perte. Et l'orgueil de cet homme atteint d'ailleurs son comble lorsqu'à son arrivée chez lui, versets 10 à 13, il assemble sa femme et ses amis et avec un luxe d'arrogance, il leur parle de ses richesses éblouissantes, de sa nombreuse progéniture et de la façon dont le roi l'a élevé en dignité et en rang au-dessus de tous les administrateurs et princes du royaume. Voilà l'orgueil dans toute son horreur. Il se repaît de comparaison. Il prend un plaisir particulier pour les honneurs préférentiels, un plaisir particulier pour la supériorité qu'il s'imagine posséder. Je parle de façon générale, je ne parle pas que d'Aman. L'orgueil met en général l'accent sur les richesses, sans forcément être le plus riche, mais on est plus riche que celui d'à côté peut-être. Ou peut-être sur une comparaison familiale, sur la réussite professionnelle ou la réussite scolaire des enfants, qui sont de grands génies, méconnus souvent, ou sur les honneurs encore. Et pour exprimer tout cela, eh bien, il y a un outil, la langue. Le moyen d'expression privilégié, comme nous le voyons dans ce texte. Aman est l'exemple type de la personne complètement obnubilée par tout ce qu'offre ce monde présent, les honneurs, les plaisirs et les richesses. Alors je vous pose cette question ce matin, chers amis, est-ce que vous éprouvez de l'orgueil en raison de vos richesses, de votre famille, de votre réussite professionnelle, de celle de vos enfants, de votre rang social, de votre grande intelligence? Est-ce que vos propos ou vos actes trahissent l'orgueil que vous placez dans ces privilèges, oubliant que tout cela, tout ce que vous avez, ne vient que de Dieu? Si tel est le cas, sachez que l'orgueil est un des plus grands péchés, parce qu'il nous fait considérer les dons de Dieu comme s'ils nous appartenaient et comme si nous en étions les auteurs. Notre orgueil prive donc Dieu de la reconnaissance qui lui est due en tant que source de tous les biens dont nous jouissons. Alors que Dieu nous garde de celui-ci et qu'il nous accorde vraiment des cœurs reconnaissants, tout simplement, pour ce qu'il nous donne dans sa bonté. Regardez bien encore le texte et remarquez qu'après avoir ainsi étalé devant tous l'étendue de son orgueil, Mardochée laisse encore parler le fond de son cœur au verset 13, lorsqu'il dit ceci. « Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. » Voilà un autre aspect de l'orgueil. C'est l'insatisfaction. La faveur du roi, celle de la reine, l'admiration de sa famille, sa richesse et son rang, rien de tout cela ne satisfait vraiment le cœur de cet homme. Tant que ce Juif continuera de lui refuser le respect qu'il lui doit selon la loi. L'orgueil et le ressentiment vont de pair. Laisser l'orgueil envahir le cœur ouvre naturellement la voie à l'insatisfaction, puis au désir de vengeance. Et cela permet aux petites choses qui nous offensent, et il y en a beaucoup, ne serait-ce que quelqu'un qui nous fait une queue de poisson ou qui n'avance pas assez vite au feu vert, toutes ces petites choses, toutes ces petites injustices dont on se croit l'objet, eh bien, l'orgueil conduit au ressentiment. Et c'est ainsi que toutes les grâces de Dieu disparaissent. Que sa fidélité à notre égard n'apparaît plus dans sa vérité et que revient à l'esprit comme une vague nauséabonde les multiples petites injustices, je le rappelle, dont on se croit l'objet. L'insatisfaction. Comment répondent l'épouse d'Amant et ses amis face à ce ressentiment, à ce mécontentement? Eh bien, d'élever une potence à 15 mètres de haut pour y faire pendre Mardochée. Et le comble de l'horreur, c'est qu'enfin Mardochée est content. C'est qu'enfin il est heureux. La chose plut à Amant. Enfin il est heureux. Là où sa femme et ses amis auraient dû mettre solennellement en garde Amant contre le danger de son orgueil et de ses conséquences terribles, eh bien leur sinistre suggestion pousse cet homme ou procure à cet homme enfin une réelle jouissance. Que Dieu nous accorde dans sa grâce d'avoir des époux, des épouses et des amis qui nous montrent quand nous sommes vraiment enfermés dans notre vanité, notre suffisance, notre orgueil et notre ressentiment, plutôt qu'avoir de si tristes compagnons. La Bible, chers frères et sœurs, énonce clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et cette résistance de Dieu à l'orgueil est tout à fait appropriée. L'orgueil est une forme de malhonnêteté en ce qu'il nous donne une vision déformée de notre importance. L'orgueil nous donne une vision déformée de qui nous sommes. Il nous hisse à la place de Dieu et nous pousse à nous approprier la louange qui lui est due. Et il nous met dans le camp de Satan, directement. George Whitefield a écrit ceci. « Oh, que je me vois toujours tel que je suis. Je crois avoir peu de raisons de tomber en adoration devant ma personne. Que Dieu ait pitié de moi qui suis pécheur. » Chers amis, le meilleur antidote à l'orgueil est de développer en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et à ce propos, je vous propose de relire chez vous tout le passage de Philippiens 2, 5 à 8 qui nous montre comment, alors qu'il était en forme de Dieu, il est descendu sur cette terre, il a pris une nature humaine, il est allé jusqu'à la mort, même à la mort de la croix, à la mort ignominieuse de la croix pour notre salut. Lorsque nous nous comporterons les uns envers les autres selon son exemple, alors toute compétition malsaine entre nous disparaîtra, ainsi que le mépris. Nous veillerons alors à nous effacer devant autrui, et nous considérerons alors les autres, nos frères et sœurs, comme supérieurs à nous-mêmes, et placeront leur intérêt avant le nôtre. Je conclue, chers frères et sœurs, nous venons de voir ce matin combien la prière est puissante. Nous avons dit tout d'abord, en prenant l'illustration de ces premiers versets, nous nous sommes souvenus quel accès nous avons au Père, un libre accès au sanctuaire, au trône de la grâce. Et nous avons vu ensuite combien la prière est efficace. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques, et il fait référence à Élie, qui pria Et pendant 7 ans, aucune goutte d'eau ne tomba sur Israël. Et il pria à nouveau, et tout d'un coup, un petit nuage vint, et la pluie retomba. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons vu que par la prière, Dieu accomplit des miracles. Il délivre, il aplanit les sentiers, il accorde de la sagesse, du discernement. Il conduit le chrétien à agir au bon moment. Et il confond l'injuste. Voilà, voilà quelques-unes des possibilités de la prière ou ce que fait la prière. Alors ne la délaissons pas. Nous allons sortir peut-être en disant « Oui, c'est vrai, mais qu'allons-nous faire ensuite ? » Est-ce que dans quelques jours, nous abandonnerons cette prière ? Est-ce que nous serons fidèles à la réunion de l'Église ? Est-ce que nous viendrons le troisième dimanche du mois ou bien serons-nous tellement fatigués ? Est-ce que nous prendrons du temps seuls, en couple, en famille, pour prier, pour nous approcher de Dieu, pour crier à Lui, pour notre Église, pour la mission ? Pour Jay Kant et ses églises, ou bien d'autres sujets, nous avons un tableau missionnaire là-bas au fond. Il y a une liste de prières à disposition. Chers frères et sœurs, je ne peux que vous exhorter, nous exhorter ensemble, que ce message, que cette parole touche nos cœurs, mais qu'il y ait comme pour Esther, une conviction et une action. Prions, prions de tout notre cœur et laissons Dieu agir pour sa seule gloire. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, y a-t-il plus grande grâce que de pouvoir se présenter dans ta présence, que d'avoir un libre accès au sanctuaire, au trône de la grâce, au Dieu souverain et tout-puissant qui règne dans les cieux. Éternel, notre Dieu, oui, ce sont de doux moments que ces moments de la prière, comme nous l'avons chanté, mais c'est parfois aussi des moments de combat. Seigneur, des moments de pleurs, de tristesse, Seigneur, mais toujours des moments bénis, car nous nous adressons à notre Dieu, à celui pour qui rien n'est impossible. Ô Éternel, Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te prions ce matin afin que tu nous accordes comme un feu intérieur qui nous ronge, afin que nous nous approchions de toi. Accorde-nous parfois de moins discuter. Accorde-nous parfois de moins perdre du temps dans des choses vaines et de savoir, Éternel, dans le secret ou en Église, nous présenter devant toi. Seigneur, quel riche moment, moment béni, que de pouvoir nous approcher de notre Sauveur. Passer ce temps parfois dans l'humiliation à cause de notre péché, de notre misère. Présenter devant toi, Éternel, devant ton trône de grâce, ton Église, nos frères et sœurs, dans l'Église et au loin, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Penser à nos nations, à nos pays, Seigneur, qui souffrent à cause, Seigneur, de ce rejet de l'Évangile. Oh oui, Père éternel, il est bon d'être enseigné selon ta parole. Et quelle grâce, Seigneur, tu nous fais. Mais il est bon aussi de nous présenter devant toi et d'agir, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes. Père, Dieu Tout-Puissant, comme il a été dit, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bienveillant, qui sait reprendre ses enfants, Seigneur, avec amour, te rappeler à eux, Seigneur, leur rappeler leurs devoirs. Eh bien, ce matin, nous te demandons que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que cette parole, Seigneur, ne disparaisse pas, ne soit pas mangée par les corbeaux, mais qu'elle reste, qu'elle porte du fruit, et un fruit à ta gloire seulement, ô notre Dieu. Seigneur, nous te remettons celles et ceux de notre Église qui souffrent ce matin. Nous te demandons d'être auprès d'eux. Il y en a qui auraient pu être là, qui aimeraient et qui auraient aimé être dans notre présence éternelle et devant toi, mais qui ne le peuvent pas. Nous te les apportons. Nous t'apportons tous ceux, Seigneur, qui souffrent pour des raisons aussi peut-être professionnelles, Seigneur, ou autres, te demandant que tu prennes soin d'eux, que tu répondes à leurs besoins. Nous t'apportons, Seigneur, les autorités de ce pays et te demandons vraiment, Père, que tu les équipes, que tu les soutiennes dans leurs tâches, que tu leur accordes de diriger, Seigneur, leur commune, leur canton ou ce pays, Seigneur, selon ta volonté. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Nous voulons te dire tout notre amour. Nous voulons te remettre le reste de cette journée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.